perkeleen tontot!
Vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Salut à tous, bienvenue dans l'émission Check Me Load. Nous sommes le 9 juillet et aujourd'hui, eh bien, roulement de tambour, il va y avoir une interview dans Check Me Load. Ça faisait un bon moment que c'était pas arrivé à cause de la crise sanitaire. C'est vrai qu'il y en a eu très peu hein, durant cette saison 2020-2021, mais ça y est, les artistes peuvent enfin recommencer à faire leurs promos, à défendre leurs créations. Et donc, tout à l'heure, j'aurai l'immense plaisir de vous proposer une interview du groupe Welcomics. Ce sera Sam Kuhn, le chanteur de la formation, qui sera avec nous d'ici environ une demi-heure pour parler de Volume 2, leur nouvel album qui est tout frais, hein, il est sorti le 25 juin. Mais avant donc de s'intéresser à ce groupe que j'adore, Welcomics, eh bien voici une petite sélection de nouveautés alors qui sont parues ce jour et vendredi dernier. Alors pour lancer les hostilités, on va avoir du live, un live qui est signé d'un groupe phare de la seconde vague de la scène glam metal, celle qui est née entre le milieu et la fin des années 80 du côté du fameux Sunset Strip d'Hollywood. Ce groupe, c'est LA Guns, qui avant de dégainer un nouvel album studio à l'automne prochain, eh bien sort aujourd'hui Cocked and Loaded Live, qui a été enregistré lors d'un concert exceptionnel à Las Vegas, concert qui avait été retransmis en live stream partout à travers la planète. Alors, LA Guns, c'est un groupe qui, comme son nom l'a supposé, voit le jour à Los Angeles en 83, sous l'impulsion du guitariste Tracy Guns. On en a parlé il n'y a pas bien longtemps pour son projet parallèle, Tracy Guns. Alors à l'époque de la naissance de LA Guns, il est accompagné du chanteur Michael Jagos, du bassiste Al Bache et du batteur Rob Garner. Mais pas de chance, hein, le chanteur Michael Jagos, il va se retrouver peu de temps après derrière les barreaux. Et ce sera un certain Axl Rose qui va assurer l'intérim, mais qui au retour de Jagos va lui rendre sa place et puis va partir fonder avec le guitariste Izzy Stradin un groupe qui s'appelle Hollywood Rose. Alors, d'un côté on a LA Guns, l'autre côté on a Hollywood Rose. Est-ce que vous voyez venir la suite? Je pense que oui, hein. Et vous, dans ce cas-là, vous avez bien vu. Effectivement, les groupes LA Guns et Hollywood Rose vont fusionner en 85 et ça va donner naissance au groupe Guns N' Roses, bien évidemment. Alors, l'union entre les deux enfants terribles du rock sera très courte durée, notamment à cause du fichu caractère d'un certain Axel. Et la même année, eh bien, Tracy Guns va reprendre sa liberté, va relancer LA Guns avec un nouveau line-up. Line-up qui sera d'ailleurs très changeant jusqu'à la sortie d'un premier album éponyme. Ça, ce sera début 88. Cet album, ce premier album éponyme, il va connaître un accueil extrêmement chaleureux, je dirais, notamment aux États-Unis, puisqu'il va être certifié disque d'or. Alors il faut dire qu'à ce moment-là, grâce à la toute-puissance de la chaîne MTV, le glam metal est en plein apogée, tout comme le sera LA Guns, d'ailleurs en apogée en 89, au moment de la sortie de son deuxième album, l'album Cocked and Loaded. Là nous sommes donc à la toute fin des années 80. Sur cet album, alors on trouve notamment la fameuse ballade The Ballad of Jane, qui sera un tube aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et même si ensuite ils vont continuer, hein, LA Guns, c'est vrai que ces deux albums-là réunissent à eux seuls la majorité des titres emblématiques du groupe. Alors, donc je l'ai déjà dit, hein, ils vont continuer un petit peu leur carrière, enfin ils vont continuer leur carrière puisque ça existe toujours. Il y aura quand même un parcours assez chaotique en ce qui concerne le line-up. Et on peut d'ailleurs noter à ce sujet que depuis quelques temps, après une scission entre le batteur Steve Riley d'un côté et le guitariste Tracy Guns et le chanteur Phil Lewis de l'autre, il existait deux versions du groupe LA Guns, puisque aucun des deux voulait laisser le nom aux autres. Alors ça a créé quand même un sacré bordel, parce qu'on a des albums qui sont sortis, mais pas forcément avec les mêmes musiciens. Et heureusement, il y a un accord qui a récemment été conclu entre les deux parties, et c'est finalement la team de Tracy Guns qui continuera à utiliser ce nom de LA Guns. Mais venons-en donc à l'actu du groupe, hein, à ce Cocked and Loaded Live qui paraît aujourd'hui. Alors c'est en novembre dernier que débute son histoire à ce live-là. Le groupe à ce moment-là, donc de Tracy Guns et Phil Lewis, venait tout juste de commencer à se mettre au travail pour son prochain album, et ils ont eu l'idée de célébrer les 31 ans de leur album phare, en faisant ce qu'ils préfèrent faire au monde, c'est-à-dire un concert, un spectacle en live, et ce malgré la pandémie qui faisait rage à ce moment-là. Alors du coup, le 28 novembre dernier, eh bien, LA Guns a investi le Fremont Country Club de Las Vegas et ils ont donné un concert spécial qui a donc été diffusé en live stream pour que les fans du monde entier puissent en profiter. Et durant ce concert unique, eh bien, le groupe il a interprété tous les titres de cet album culte qui est Cocked and Loaded, de Rip and Tear à Never Enough, en passant par la balade de Jane, en passant par Wanna Be Your Man et puis bien sûr Malaria, des interprétations qu'on prend un réel plaisir à redécouvrir, d'autant que faut bien l'avouer, hein, avant que les années 80 ne connaissent cet incroyable retour en grâce où maintenant on les adore, on avait malheureusement oublié tous ces groupes que sont Skid Row, Poison, Warrant, Cinderella, LA Guns, et d'ailleurs il n'y a pas si longtemps c'était même des groupes qui étaient fortement décriés, ce que je trouve fortement dommage. Voici donc tout de suite LA Guns avec le titre Malaria, c'est dans sa version live 2020. C'est tout de suite, c'est sur Bac FM. We'll be right back. Air Metal sur Bike FM dans l'émission Check Me Load. À l'instant, c'était donc le titre Malaria version 2020 du groupe de glam metal californien LA Guns qui sort aujourd'hui Cocked and Loaded Live, un concert diffusé en live stream le 28 novembre dernier à l'occasion des 31 ans de l'album du même nom, donc Cocked and Loaded, qui a été joué alors quasiment dans son intégralité. Il y a eu quelques petites variantes, mais tellement minimes que ça vaut pas le coup d'en parler. Pour la deuxième sortie de ce 9 juillet, bon, on va rester à Los Angeles, mais on va changer littéralement de style, puisque eux, ce n'est pas le glam des années 80 qui les inspire, mais le garage des années 60 et 70. Aujourd'hui sort Tune In, Turn On, Electrify, l'électrisant nouvel album de The Lords of Altamont. Fondé en 99 par le clavier Jack Cavaliere, qui fut un temps le manager des Cramps, et le guitariste Johnny DeVilla, que Cavaliere avait côtoyé auparavant au sein des groupes The Fustons et The Bamboras, The Lord of Altamont pratique un mélange de hard rock, de garage rock et de rock psychédélique sans concession. Le groupe tire d'ailleurs son nom d'un événement tragique hein, qui s'est déroulé durant le concert des Rolling Stones au festival d'Altamont en 69, durant lequel un spectateur a quand même perdu la vie. Un événement qui fait partie de ce qui symbolise la fin du Flower Power, avec d'autres choses comme l'assassinat de Sharon Tate par exemple. Alors depuis toujours, au sein de The Lord of Altamont, le maître absolu c'est Jake Cavaliere, qui tel un véritable gourou est même surnommé The Preacher. Il a été élevé dans une culture de bikers, Cavaliere, et il est extrêmement imprégné de tout ça, de cet univers des clubs de moto américains. C'est un univers qu'on retrouve beaucoup dans The Lord of Altamont, où par exemple chaque musicien arbore une veste de motard avec le logo du groupe et l'inscription du traditionnel surnom que reçoit chaque biker lorsqu'il intègre un club. C'est au niveau des influences musicales un groupe qui revendique beaucoup l'énergie brute du MC5 ou des Stooges, qui revendique aussi beaucoup l'esprit psychobilly des Cramps, la sauvagerie de Motorhead, la folie psyché des Who. The Lord of Altamont d'ailleurs nous montre tout ça et donne le ton dès la sortie d'un premier album qui s'appelle To Hell with the Lord of Altamont, ça c'est en 2002, et puis depuis, le combo, qui tourne d'ailleurs énormément en France où il a une forte popularité, il a sorti 6 autres albums dont ce furieux Tune In, Turn On, Electrify, tout frais paru ce jour, un 7e album donc, qui dès ses premières notes nous balance une châtaigne aussi puissante que si vous avez fourré vos doigts dans une prise électrique. Alors c'est vrai que le groupe est loin de se contenter de singer ses glorieux aînés au nom d'un revival trop souvent réchauffé. Non, les Lords of Altamont, eux, ils s'emparent littéralement de cet esprit-là pour provoquer une collision sonore entre les années 60, 70 et ce début de décennie 2020. Un choc qui passe par des guitares fuzzy, des pédales wah-wah, une basse ronflante, des orgues endiablés, sans oublier la prestation dantesque d'un preacher totalement habité. Tune In, Turn On, Electrify, c'est une célébration psychédélique directe et brutale à la gloire de la fée électricité et des dieux du rock'n'roll. C'est un disque qui transpire l'urgence, la hargne, l'envie irrépressible de faire bouger les foules. Quand les Lords vont reprendre la scène d'assaut, ça va être torride dans les fosses, moi je vous le dis. Voici d'ailleurs un extrait de ce nouvel album. On va retirer le titre parce qu'il est excellent. Tune In, Turn On, Electrify, et on écoute le morceau Living With The Squares. We'll be right back. Quand la chaleur incandescente du stoner californien rencontre l'énergie brute garage de Détroit, ça donne ce morceau Leaving the Squares du groupe The Lords of Altamont, qui sort aujourd'hui son 7e et bien nommé nouvel album intitulé Tune In, Turn On, Electrify. Vous écoutez l'émission Check Melo sur Bike FM. Et avant de retrouver l'interview de Welcome X, eh bien, je vais vous présenter une dernière nouveauté. Alors, elle n'est pas parue aujourd'hui, mais vendredi dernier. Il s'agit de You Will Be the Days of Me, le nouvel album de Light the Torch, un groupe, ou devrais-je dire un super groupe de metalcore qui est originaire, devinez d'où, de Los Angeles, et oui, tout comme les deux autres formations qu'on vient d'écouter. Alors j'ai pas fait exprès, c'est un hasard du calendrier, mais bon voilà, il se trouve qu'aujourd'hui les nouveautés c'est un spécial Los Angeles. Donc Light the Torch, c'est un groupe qui est fondé en 2012 par le chanteur Howard Jones, qui venait tout juste à l'époque de quitter Killswitch Engage, et le guitariste Francesco Artusato. Lui, c'est un ex-membre du groupe de deathcore All Shall Perish. Le groupe Light the Torch va d'abord se faire connaître sous un autre nom, celui de Devil You Know, et il va être très vite signé par Nuclear Blast. C'est d'ailleurs en tant que Devil You Know que le combo va sortir ses deux premiers albums. Il y aura The Beauty of Destruction en 2014, et puis il y aura The Bleed Red en 2015. En 2017, pour des raisons juridiques, Devil You Know va devenir Light the Torch, et l'année suivante, eh bien, ils vont sortir un troisième album qui symbolise tout simplement ce changement, ce nouveau nom, puisque l'album s'intitule Revival. Alors, à ce jour, Light the Torch est toujours mené par le duo fondateur, donc le chanteur Howard Jones et le guitariste Francesco Artusato, et ils sont accompagnés, alors depuis presque le début, du bassiste Ryan Wambacher, qui sévit également dans Bleeding Through, et d'un petit nouveau à la batterie en la personne de Alex Rudinger, qui est connu pour ses nombreuses collaborations au sein des scènes deathcore et progressive. Par exemple, récemment, là, il a tourné avec Whitechapel, il a enregistré avec Intronaut. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu son pédigré. Et puis vendredi dernier, le super combo sortait donc You Will Be the Death of Me, un deuxième album depuis son changement de nom, un disque qui n'a pas dépaysé les amateurs de metalcore mélodique, ceux qui avaient apprécié Revival. C'est un disque d'ailleurs qui a été produit par le même tandem composé de Josh Gilbert et Joseph McQueen. Donc, You Will Be the Death of Me, c'est un album qui ancre un peu plus fortement l'identité du combo, qui se veut aussi plus cohérent. On a l'impression que chaque membre du groupe semble enfin avoir trouvé ses marques, et donc les 12 titres qui sont présents sur ce nouvel opus gagnent en efficacité, en puissance. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de puissance, on peut aussi souligner la prestation vocale d'un Howard Jones très en forme, qui n'hésite pas à grôler quand c'est nécessaire. On peut aussi parler des talents guitaristiques de Francesco Artusato, qui lui n'hésite pas à redonner toutes ses lettres de noblesse au solo de guitare, un art qui aujourd'hui est trop souvent oublié, surtout en matière de hardcore, de metalcore pardon. Et puis faut pas oublier aussi la section rythmique, hein, puisqu'elle est pas en reste, elle s'avère aussi solide qu'efficace. En bref, You Will Be the Death of Me, c'est un album vraiment extrêmement réussi, à côté duquel il serait dommage de passer cet été, surtout quand on aime la scène metalcore. On va d'ailleurs en écouter tout de suite un extrait pour que vous vous fassiez une idée. Le titre que je vous propose, c'est Wilting in the Light. Voici tout de suite Light the Torch sur Bike FM.
Losing faith will always get the best of.
Wilting in the Light du groupe de metalcore californien Light the Torch, mené par l'ex-chanteur de Killswitch Engage, Howard Jones. Vendredi dernier, le combo sortait chez Nuclear Blast son nouvel album qui s'intitule You Will Be the Days of Me, et c'est une franche réussite. Alors restez sur les ondes de Back FM puisque l'émission Check Milot continue avec d'ici 5-10 minutes l'interview du groupe Wellcomics qui a sorti le 25 juin volume 2, un deuxième album absolument incroyable. Alors moi j'avais déjà eu un gros coup de cœur pour leur première production qui s'appelait volume 1, qui est paru fin 2018, un coup de cœur qui s'est définitivement confirmé avec ce volume 2 qui surpasse encore son prédécesseur. Alors, Wellcomics, pour vous en dire deux mots avant l'interview, c'est la réunion de 5 musiciens d'exception. Le groupe, il est né de la rencontre de Phil Bussonnet, qui est l'ex-bassiste de Magma, un groupe mythique de la scène jazz-rock, et du chanteur Sam Kuhn, qui lui vient de la scène blues et metal, et qui possède des ressources vocales absolument hallucinantes, un petit peu dans la veine d'un Mike Patton. Et tout ça, ça fait que Wellcomics, eh ben, c'est un groupe unique qui s'impose aucune frontière, aucune limite. Sa musique possède à la fois la liberté du jazz et l'efficacité, l'urgence du rock et du métal. Les influences fusionnent entre elles pour donner naissance à un univers avant-gardiste avec extrêmement de cohérence, d'homogénéité. Et tout ça, on l'avait découvert hein, avec le volume 1 qui avait eu un très très bon accueil. Et cet univers, il continue à se développer, à s'intensifier dans volume 2. Qui m'a totalement envoûté. Voilà, il y a un côté un peu lancinant dans les chansons. Voilà, on se laisse envoûter, presque rentrer en transe. J'ai hâte de parler de tout ça avec Sam parce que j'avais déjà interviewé il y a 2 ans et c'était un très très bon moment. Et là, vu que j'ai adoré l'album, je pense que ça va être une bonne interview qui va nous expliquer un peu tout ça. En tout cas, restez avec nous, ce sera dans quelques instants. Juste le temps de se mettre dans l'ambiance. En écoutant quand même un morceau extrait de ce volume 2. Et pour se mettre dans le ton, eh bien, j'ai choisi de diffuser le titre Bull's Eye. We'll be right back. Le vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Bienvenue dans l'émission Check Milote si vous nous rejoignez. Et à l'instant, c'était le titre Bullseye du groupe Welcome X. Il s'agit d'un extrait de volume 2, le deuxième album du groupe qui est paru le 25 juin. Et pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir en ligne Sam qui est le chanteur et un des membres fondateurs de la formation. Salut Sam et bienvenue sur Bac FM.
Bonjour Laetitia, bonjour à tout le monde.
Alors, on s'était déjà entretenu en fait sur cette antenne à la sortie de votre premier album. Mmh. Mais si tu le veux bien, je vais quand même refaire un petit peu les présentations parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui n'étaient pas là à l'époque. Donc, Welcome X, c'est un projet qui est né de ta longue amitié avec Phil Bussonnet, qu'on connaît notamment en tant que bassiste de Magma, un groupe mythique de la scène jazz-rock. Et cette amitié, eh bien, c'est en jamant qu'elle est née, je crois.
Exactement.
Donc ensuite, le line-up s'est complété. Vous avez sorti fin 2018 un premier album, c'était volume 1, qui a reçu un accueil extrêmement enthousiaste. Et donc, le 25 juin, sortie de ce nouvel album, volume 2, que tu vas nous présenter aujourd'hui. Alors, juste avant d'entrer dans les détails, j'ai noté qu'il y avait eu un petit changement de line-up à la batterie avec l'arrivée de Julien Charlet qui remplace Johan Serra. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce nouveau batteur?
Oui, bien sûr. Mais la suite du premier album, donc on a commencé à tourner un petit peu, à jouer. Le planning de Johan était assez chargé.
D'accord.
Johan Serra est un batteur assez demandé, très demandé même. Et donc, c'était un peu difficile d'avoir les dates qui correspondaient. On avait Julien, qui est un ami de Philippe de longue date, qui connaît depuis longtemps aussi, qui est venu d'abord jouer avec nous pour remplacer en concert, pour faire une date un peu d'épanage.
D'accord.
Et en fait, il a assez accroché direct. Il a tout compris au morceau, il est rentré directement dans le groupe. Et on a continué avec lui donc pour plusieurs dates. Et puis finalement, c'est logiquement en fait qu'il a enregistré le deuxième album avec nous. En fait.
Bon, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé sa prestation là, sur le nouvel album. Wow.
Merci beaucoup.
Alors, toujours à l'époque de notre première interview, tu nous avais confié que vous aviez déjà du matériel pour un deuxième album.
Ouais.
Est-ce que volume 2 est composé de ce matériel-là ou est-ce que vous avez aussi écrit de nouveaux morceaux?
Alors, comme volume 2, comme on a dit, en fait, c'est dans la continuité du premier, en fait. C'est,
d'accord.
Il y a des morceaux que vous avez fait déjà à cette période-là, qu'on a enregistré le premier album, qu'on a commencé à monter sur scène. On a toujours continué à composer, en fait, à faire des choses. Et donc, il y avait des morceaux qui existaient déjà, qu'on jouait déjà sur scène à l'époque, qui se sont retrouvés naturellement sur ce second album. Et il y a des morceaux comme 32GE, qui est un morceau composé par Thomas, pour le coup, qui sont apparus après. Il y a des choses qu'on a fait, qu'on a composé après, juste, on va dire, un petit peu avant l'enregistrement d'album, pardon. Mais c'est des choses qui avaient déjà, quand on est entré en studio, en fait, les morceaux, on les avait déjà dans les pattes, on les connaissait par cœur, en fait.
Alors, c'est vrai qu'avec volume 1, moi, j'avais pris une énorme claque. Ça avait été un gros coup de cœur à l'époque. Et donc, j'avais hâte de le découvrir, ce volume 2. Et waouh, quel mandale, quoi. J'ai absolument tout aimé dans ce nouvel album. Il m'a carrément hypnotisé, envoûté. À la fin du disque, j'étais quasiment en état de transe. Est-ce que vous seriez pas, des fois, des chamans du rock?
Ça me fait plaisir. C'est un peu le but de la musique qu'on joue, en fait. C'est de transporter et de proposer... un espèce de voyage, quoi, de sortir un peu de l'ordinaire et d'être dans une bulle. Et c'est encore plus exacerbé maintenant avec tous ces confinements, les conditions sanitaires et tout. Quand on vient nous voir ou qu'on nous écoute, on espère justement que ça sorte de ça et qu'on fait autre chose, quoi, de transporter ailleurs.
Et c'est vrai qu'il y a presque un côté cinématique un peu dans l'album.
Ouais, tout à fait. Il y a aussi. C'est un peu la façon aussi que j'ai d'écrire sur les morceaux de Philippe, qui quand je reçois ces structures de morceaux. Et pour moi, j'ai des images comme un film, comme. Avoir un tableau, un film, une photo, ce que tu veux. Ça fait penser, c'est très, très imagé, quoi.
Oui.
Donc forcément, tu l'as sûrement, c'est mon ressenti, donc c'est forcément, tu l'as forcément au retour sur l'album quand tu le mets, ouais.
Et c'est vrai que ça aussi, ça m'a beaucoup plu dans ce nouvel album, cette explosion d'influence là qui donne. Alors, je trouve que ce volume 2, par contre, il a une ambiance très 90s.
Ouais, moi j'ai grandi dans cette période-là, et puis
ouais.
Lui aussi, c'est nourri aussi de ça, même s'il est... Il y a toujours le côté Black Sabbath, années 70,
ouais.
Voilà, mais moi j'adore le côté mélodique que tu pouvais avoir dans ces groupes des années 90, donc que ce soit Alice in Chains, Soundgarden,
ouais, la scène de Seattle,
tout ça, voilà, toute la scène de Seattle, ils avaient un côté mélodique très particulier que j'adore, et moi je me suis nourri de ça, et tu le ressens peut-être un peu sur cet album-là, notamment Inevitable Collapse, où il y a des refrains, tu vois, des mélodies comme ça, mais les années 90, oui, ils m'ont beaucoup marqué, parce que on était encore dans... Les influences des années 70 étaient digérées et ils ont rajouté un petit côté en plus, cette urgence qu'il y avait, plus ce côté mélodique.
Ouais.
Et il y avait encore ce côté garage, en fait, que tu peux retrouver aussi, ce côté groupe entre potes, quoi. qui a un peu disparu maintenant, je trouve, parce qu'avec tous ces home studios, tout ça, tout a plus tendance à bosser un peu dans notre coin et à faire des choses un peu plus froides.
Oui, c'est vrai.
Et là, voilà, on a essayé de garder ce côté-là, qu'on adore, quoi, les 90s.
Ouais, c'est vrai qu'on pense, donc on pense, c'est vrai, à la scène de Seattle, on pense à Rage Against the Machine. Et puis, alors, j'ai aussi pensé en écoutant notamment le titre Ombromanie, j'ai pensé à la scène Death Doom britannique et à Paradise Lost, un peu.
Tout à fait. Alors, si on me l'a. On l'a dit aussi, je ne me suis pas rendu compte forcément. Je ne me rends jamais compte vraiment. C'est des influences que digère, hein, forcément après.
Ouais.
Mais ouais, j'aime beaucoup Paradise Lost. Mais c'est pareil, hein, c'est des groupes aussi avec des, qui sont très mélodiques, quoi.
Oui.
C'est ce côté lancinant, ce côté un peu doom, ce côté avec des gros, c'est bien mélopé. Et puis d'un coup, une voix un peu plus chargée, un peu plus rock, plus grunge, quoi. Ouais, c'est des groupes qui m'ont parlé, en effet.
Volume 2, c'est un album qui groove, il y a du feeling, c'est aussi un album qui laisse sa place à chaque instrument pour s'exprimer, pour se développer, notamment je pense à la basse qui a un rôle central tout au long du disque. Je trouve que pour une fois elle est largement aussi importante que les guitares, alors comme elle l'était presque un peu chez Rage Against the Machine par exemple. Donc en même temps c'est vrai que le compositeur du groupe c'est Phil, donc le bassiste, et du coup je me demandais comment ça se passe niveau compo, est-ce qu'il compose à partir de riffs de basse?
Tout à fait. En fait, il va arquer ses compositions à partir d'un riff, souvent.
D'accord.
Souvent, par souvent de la base. Hein. C'est comme si, comme Led Zeppelin, Black Sabbath, tous ces groupes-là, les piliers, ben, c'est la même chose. Donc, lui, il va trouver son riff à la basse. Après, il va l'étirer dans tous les sens pour savoir ce qu'il peut en tirer. L'emmener dans des directions différentes, tout ça. Voir ce qu'il peut en tirer. Le presser jusqu'à sortir vraiment tout ce riff-là et tout de ce qu'il peut emmener. Ensuite, il va construire son squelette en faisant une idée de batterie, des idées déjà de guitare. Tout ça, il m'envoie le morceau, qui lui dit un squelette, mais je suis sûr qu'il est déjà presque défini.
Même le morceau,
il a déjà quand même un bon aspect général du morceau. Et moi, j'ai posé une idée de mélodie dessus, je vois, puis je vais écrire les textes, et on va se voir, et puis on va continuer tout ça, puis on va construire un groupe pour le jouer ensemble. Mais c'est la musique qui, en effet, qui part d'un truc viscéral de riff, mais après, d'une espèce d'improvisation qu'il va faire, mais à la fin, toute la musique sera écrite, en fait. Même les solos.
D'accord.
On va faire des solos, tout ça va être très, 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 très écrit, mais en même temps, ça va garder une espèce de liberté. C'est assez étrange de dire ça. C'est paradoxal de dire que ça peut paraître la musique improvisée alors que c'est écrit, quoi.
Mais un peu dans l'esprit du garage, finalement.
Exactement, tout à fait.
Garage, la jam, l'esprit des années 60, 70.
Exactement ça.
Et justement, puisqu'on parle de l'importance des instruments, dans Wellcomics, ta voix, c'est également un instrument à part entière, hein.
Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'on essaie de la mettre dans le mix.
Ouais.
En avant. Bah ouais, parce que si je voulais faire que du gros, je ferais que du gros, je pense pas que ça m'apporterait grand chose. Là, j'essaie de trouver plein de tessitures vocales différentes, de voir en fonction de l'émotion, de sur les morceaux, des mélodies, ce que ça peut, en fait, c'est le morceau qui me porte, en fait, donc je vais faire des voix différentes. Et du coup, ça va être autant traité qu'une guitare, ou qu'un violoncelle, ou qu'un effet, en fait. On essaie de le mettre dans le mix, enfin, que ce soit homogène avec tout le truc, quoi. Et en effet, je le vois plus comme c'est vraiment un instrument à part entière plutôt que juste être frontman, être devant et faire écrire ses textes, quoi.
Alors, c'est vrai qu'on te compare souvent à Mike Patton, hein, ça, qui coupe pas. Mais en même temps, faut dire que, bah, comme lui, t'es un véritable caméléon, t'as une palette vocale qui est super large, super riche. Ça donne des interprétations intenses et j'ai l'impression que là, sur ce volume 2, t'as pas hésité à repousser encore un petit peu plus loin les frontières, non? Pour donner encore plus d'émotion, de profondeur aux parties de chant.
Ouais, tout à fait. Il y a sur Ombromanie un truc que j'ai jamais fait, par exemple. On peut aller monter vraiment très très haut, faire des pitchs. J'ai jamais tenté de faire ça. Donc, je l'ai fait, j'ai bossé. Et je me suis planté quelques fois. mais j'essaye. Mais c'est bien. Ouais, comme il peut me permettre de faire ce genre de choses-là, que je peux pas me permettre avant de faire un groupe de métal plus traditionnel. Tu sais, où tu entraînes dans des codes.
Ouais.
Où tu as un style particulier, donc tu chantes comme ça, quoi. Là, ça me permet de tenter des choses que j'ai jamais trop fait avant. De découvrir moi-même ce que je peux faire encore, quoi. Mais ouais, on prend souvent l'exemple de Mike Patton parce que c'est pareil, il utilise sa voix comme un instrument, du coup il n'y a pas beaucoup de gros de chanteurs que l'on peut comparer, mais c'est bizarrement ce que j'adore ce groupe, hein. Et c'est pas un groupe sur lequel je me suis nourri quand j'étais gamin, c'est quand j'étais ado par exemple, et le fait qu'on me le rapporte tout le temps, c'est assez rigolo, en fait, parce que tu t'aperçois finalement qu'il n'y a pas trop finalement dans le monde même du métal de vocalistes qui des fois s'amusent à faire des choses différentes de ce à quoi on les attend, quoi. Enfin, un chanteur de métal, d'habitude, il va se concentrer de faire du rôle.
Oui.
Et puis voilà, quoi. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup ces chansons des années 90. Hein. Il y avait des super voix, Chris Cornell.
Bah, la scène de Seattle, entre autres, ouais, il y avait des voix magnifiques. Hein.
Incroyable.
Ouais, ouais. Et ce qui est bien aussi dans Wellcomics, c'est que bah justement, on a l'impression que vous vous mettez pas de barrière, vous vous mettez pas de limite, vous allez voilà là où vous avez envie de vous éclater, quoi.
Tout à fait, exactement. Il y a une route, on est dans une voiture, mais nous, on décide de prendre une autre. Même si elle n'est pas goudronnée, on va aller essayer.
Et quand on découvre un album, du coup, bah, nous aussi, on se prend au jeu, en fait, assez vite, et on découvre au fur et à mesure bah, là où vous voulez nous emmener. Et on est toujours surpris. Tout le temps, on dit « Waouh, je ne m'attendais pas du tout à arriver là ». Et bah, ça, c'est vraiment génial, quoi. J'ai pas d'autre, pour le coup, là, par exemple, je n'ai pas d'autres formations avec qui vous comparer à ce niveau-là.
Ouais. Ben ouais, c'est ce que vous avez dit sur le volume 2, là, qui est assez, c'est toujours étonnant aussi, hein. Super bien accueilli, quoi. Enfin, j'ai des retours absolument incroyables. On a notamment vu la dans le Rockard qui est sorti, ce mois-ci, hein.
Ouais.
Absolument délirante. Et interview. Mais, ouais, je suis assez surpris que les gens, en fait, ils attendent d'être un peu surpris comme ça. Ça les gêne plus, tu sais, avant, on aurait pu dire, ouais, c'est avant-gardiste, ouais. Un peu machin truc. Et en fait, non, non, c'est jamais considéré comme ça, mais on essaie des trucs un peu plus, qui sortent un peu de l'ordinaire, et puis en effet, ouais, je pense que les gens se fient ça.
Alors, pour le coup, je pense qu'il n'y avait pas eu ça en France depuis Carnival in Call.
Tu n'y penses pas si bien dire, parce que l'un des premiers retours que j'ai eu de l'album, c'est Arnaud Strobel.
Ah bah voilà.
Carnival in Call, qui avait adoré. Et qu'on ne se connaissait pas, hein, du tout, il m'a contacté, il m'a envoyé un message. Et donc, tu vois, comme quoi. Et c'est vrai que Carnival était exactement ce truc un peu. Fusion délirant, recherche de tu vois, pas de l'expo musicale, mais de trouver un truc un peu différent, quoi.
Oui, et ça marchait bien, quoi. Ils nous ont porté, quoi.
Ouais. Sortir des sentiers battus, voilà, tu vois.
Et alors, c'est vrai que la musique de Wellcomics, à l'intérieur, il y a toujours le jazz qui fusionne avec le rock, le métal. Ça donne naissance à une musique qui a hérité ben, à la fois d'une certaine complexité du jazz et puis aussi de l'efficacité du rock. Et bah, tout comme son prédécesseur, Volume 2, c'est un album qui est extrêmement abordable et accrocheur dès la première écoute, mais qui révèle quand même toutes ses subtilités au fil du temps et si on prend le temps de l'écouter plusieurs fois. C'est important pour vous de garder l'équilibre justement entre ces deux dimensions et encore une fois cette écoute presque à tiroir, quoi.
Tout à fait, ouais, complètement. Après, pour le côté technique et... on peut le dire, tu vois, souvent ils parlent de l'élitisme que tu peux avoir dans le jazz.
Ouais.
Mais c'est juste que nous, on n'est pas du tout dans la démonstration technique ou quoi que ce soit. C'est juste que ça serve les morceaux. Alors, pas forcément, elle part quelquefois par une certaine rigueur instrumentale qu'on peut avoir. Mais l'urgence, l'impact que tu peux avoir dans la musique rock de base, elle est essentielle en fait. C'est quelque chose, en effet, qu'on a essayé de fusionner. Moi, je viens pas du milieu jazz, hein. Alors que Joe, notre guitariste, lui, vient vraiment du blues, tu vois, qui a un côté beaucoup plus libre, plus, tu vois, immédiat. Et donc, ouais, c'est un mélange de tout ça. Et en effet, c'est quelque chose qu'on essaie de garder tout le temps. Hein. Et de toute façon, voilà, il faut que la musique nous parle. Si elle nous fait chier, si ça devient très compliqué, ça fait chier tout le monde. Donc, voilà,
oui, oui.
Parce que là, on donne quand même aussi des barrières, les limites là-dessus.
Bon, en tout cas, c'est voilà, c'est vraiment le message que je voudrais faire passer aux auditeurs qui pourraient se dire ouais, mais il y a un côté jazzy, je vais pas. Non. Allez-y, vraiment, vous allez être extrêmement surpris. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de vous voir en live, malheureusement, mais j'ai eu plein d'échos et ils sont tous unanimes. Ce que j'ai entendu, c'est qu'un concert de Wellcomics, on n'en ressort jamais indemne. Hein. Et justement, ce week-end, c'était les grandes retrouvailles avec la scène, avec le public. Alors, comment ça s'est passé ce retour au live?
Bah, super.
Ah, ça doit faire du bien.
Ouais. Après un an et demi, ouais, c'est des traces. Pouvoir jouer les sur scène, d'entendre ses amplis, ses potes se renvoyer, ouais, c'est quelque chose, quoi, puis retrouver les gens, surtout, même si les conditions sont un peu particulières quelquefois, ouais. Quoi, les gens sont ici, ils ont des masques, c'est pas les... Je pense que ça va évoluer, hein, j'espère dans le bon sens. Mais c'est essentiel, parce qu'en plus, la musique qu'on joue, nous, est fondamentalement faite pour le live.
Ouais.
Le passage sur le jour obligatoire, et puis c'est quelque chose qui lui plaît, mais non, c'est sur le live qu'on fait ça, quoi. C'est pareil, c'est le même principe de bulle, hein.
Alors, je sais que l'avenir est encore un peu incertain, mais est-ce que vous avez d'autres dates de Calais? Est-ce que c'est en train de se mettre en place ou pas encore?
Ben écoute, on espère, là, on a honoré des dates qui avaient été annulées l'année dernière.
Ouais.
Tout ce qui est festoche, tout ça, c'est un peu compliqué là, on va devoir en prendre un petit peu. Là, je vais être très honnête avec toi, vu les retours qu'on a de l'album. C'est assez vite vu que tout ce qui est après voilà tout ce qui est tout suite à la suite de l'article de Rock Art, j'ai eu beaucoup de contacts, de monde d'amis. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer en live sur ma scène, c'est juste retrouver le live on avait perdu il y a un an et demi, et puis le volume, on n'a pas vraiment aussi pu le défendre à l'époque. Tu vois, on a été un peu arrêté dans notre élan. Avec le,
donc avec c'était le confinement,
ouais. Pour nous. Mm. Donc là, on ne pouvait pas reculer encore plus la sortie de cet album-là, de volume 2, parce qu'on voulait le sortir maintenant, mais en espérant que, voilà, que tout s'arrange, enfin, que, voilà, que les gens se sentent pas solitaires, qu'il n'y ait plus cette angoisse, que tout se rouvre un petit peu, quoi. Mais pas forcément que la musique, hein, je parle de vraiment tout, hein. Et donc voilà, j'espère que ça, les gens vont ressortir et vont retrouver le plaisir de découvrir les choses, quoi.
Alors, je pense que oui, là, je pense que les gens ont vraiment envie de repartir, d'aller au musée, d'aller au concert, d'aller au cinéma, et c'est bien, quoi, parce que ça fait une espèce d'émulation. On a l'impression que tout le monde s'est un peu réveillé, là.
Bah, exactement.
Eh bien, en tout cas, merci Sam de nous avoir présenté Volume 2, ce deuxième album de Welcome X, qui est disponible depuis le 25 juin, qu'on peut retrouver en version physique et numérique, alors sur toutes les plateformes de streaming, ouais, de téléchargement. Et puis d'ailleurs, on va pas se priver d'en écouter un nouvel extrait pour conclure cette interview. Et le titre que j'ai choisi, eh bien, c'est justement Ombromanie, parce que je l'ai suradoré, ce titre-là. J'avais envie de le partager avec les auditeurs, qu'ils en prennent plein les oreilles. Ça te convient comme choix?
Ah ben super, et surtout t'as la liberté de pouvoir passer des morceaux de 7 minutes.
Eh bien oui, je me la suis donnée.
Bravo,
merci. Et le morceau va passer dans son intégralité, je tiens à le préciser. En tout cas, ben, merci encore d'avoir été avec
merci
nous sur Mac FM. Peut-être rendez-vous sur la route, je l'espère, et puis sinon on se dit rendez-vous pour le volume 3 alors.
Pour le volume 3, on a déjà d'ailleurs en live, on joue un nouveau morceau.
Eh ben super. Bon courage à toi, plein de bonnes choses au groupe et à la prochaine, salut.
À bientôt, quand tu veux. Merci.
Ombromanie, une pièce musicale signée du groupe Welcomix que vous pouvez retrouver sur l'album Volume 2 paru le 25 juin qui est juste génial. Si vous venez de nous rejoindre sur Bac FM dans l'émission Check Melode, eh bien nous étions il y a quelques instants en compagnie de Sam qui nous a présenté ce deuxième album. Sam, c'est le chanteur du groupe. Une interview qui sera bien évidemment disponible en podcast sur le site de Bac FM. Et bah, il est déjà temps pour moi de refermer cette édition de Check Melode sur un air de reprise avec la rubrique Sortez Cover. Et aujourd'hui, on va écouter un titre post-punk de 79 signé Tubeway Army, revisité à la sauce post-grunge en 96 par les Foo Fighters. 79 et 96 ayant pour point commun d'avoir été d'excellents millésimes en matière de rock. Il y a eu de grands albums durant ces deux années-là. Alors, pourquoi ce choix de mettre à l'honneur les Foo Fighters aujourd'hui? Eh bien, figurez-vous que le 4 juillet dernier, on a célébré les 25 ans de la sortie du premier album éponyme du groupe. Et ce premier album, il marquait le grand retour dans l'arène du rock de Dave Grohl après la fin de Nirvana. Depuis, il mène avec les Foo Fighters une carrière extrêmement prospère et du coup, cet anniversaire du premier album des Foo, ça m'a rappelé cette époque où les amateurs de paranormal ne manquaient jamais un épisode de la série X-Files avec Mulder et Scully, une série aujourd'hui cultissime qui, à l'époque, avait donné lieu à une soundtrack qui était parue en CD sous le titre Songs in the Key of X, Music from and Inspired by the X-Files. Et elle réunissait cette compile des tas d'artistes de styles très différents, dont les Foo Fighters, avec une reprise assez géniale de la chanson Down in the Park de Tubeway Army, un groupe britannique qui était mené par le chanteur Gary Numan. Alors la chanson qui est extraite de l'album Replica, elle est sortie... Alors l'album, lui, il est sorti le 4 avril 79 et le 45 tour de Down in the Park, il était arrivé quelques jours auparavant, le 16 mars. Ses paroles, elles sont fortement influencées par des écrivains tels que Philip K. Dick. Ça raconte une histoire dystopique d'un parc futuriste dans lequel des Matchmen, qui sont des androïdes à peau humaine, et des machines violent et tuent des êtres humains pour divertir des spectateurs. Une ambiance donc très sombre pour cette chanson, qui est aussi mélancolique et glaçante. Et si les Foo Fighters en proposent une version dans l'air du temps de ce milieu des années 90, eh bien il en conserve tout de même cette atmosphère assez particulière. C'est vraiment un titre que j'adore et que je trouve vraiment trop peu connu. Donc voici Down in the Park de Tubeway Army, revu et corrigé par les Foo Fighters. Quant à nous, on se donne, si tout va bien, rendez-vous même heure, même station pour la dernière de la saison vendredi prochain. Et en attendant, stay metal, stay rock and roll. Salut à tous! Same little white lies like